En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. Le lundi 6 février 2006, Maître Jacques Vergès, avocat à la Cour de Paris, a fait une communication devant l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « La passion de défendre ». Maître Jacques Vergès, on le sait, a associé son nom à de nombreux procès médiatisés, notamment ceux de Klaus Barbie, Roger Garaudy, Paul Baril, Omar Radad, le terroriste Carlos, et tout récemment, il s'est proposé pour le procès du chef d'État irakien déchu, Saddam Hussein. Maître Jacques Vergès est l'auteur de très nombreux ouvrages sur la justice, je n'en citerai que deux, Le dictionnaire amoureux de la justice, paru chez Plon en 2002, et Les erreurs judiciaires, paru aux presses universitaires, également dans l'année 2002. Nous écoutons tout de suite la séance de Monsieur Jacques Vergès devant l'Académie des sciences morales et politiques.
Monsieur le Président, messieurs les chanceliers, quand on vit une passion, il est bon, il est même nécessaire d'en rechercher les causes. Ayant la passion de défendre, j'ai consulté les dossiers qui m'étaient confiés et j'ai constaté que chaque dossier de justice est un roman ou une tragédie inachevée, un drame en train de se jouer dont nous sommes le spectateur, le confident du personnage principal, l'accusé, le lecteur de la retranscription plus ou moins exacte faite par le juge, et enfin, le co-auteur, puisqu'au jour du procès, l'accusé et l'avocat, nous allons essayer d'écrire l'acte 5 de la tragédie, l'épilogue du roman. La parenté formelle entre un procès de justice et une œuvre littéraire est évidente. Je voudrais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est la tragédie de Sophocle, Antigone. Quand on lit Antigone, on a l'impression de lire les minutes d'un procès. Antigone commence par un débat de procédure, comme beaucoup de procès. Quelle est la loi applicable? Est-ce la loi divine qui impose aux vivants d'honorer leurs morts? Est-ce la loi de la cité qui l'interdit? Il y a, dit Créon, défense d'observer le rite, défense de gémir sur lui, défense de lui construire un tombeau. Il doit être laissé, proie pour les rapaces et pâture pour les chiens. À cette thèse de l'accusation, Antigone oppose la sienne. Il n'appartient pas au roi de m'éloigner des miens. J'ensevelirai mon frère, et si c'est là un crime, je serai sainte dans mon crime. Après le débat de procédure, comme toujours, arrive le rapport de la police. Les policiers disent « Nous avons constaté à un moment que des personnes que nous n'avions pas vues avaient déposé de la poussière sur le cadavre, c'est-à-dire un début de rite. Ensuite, poursuivant notre surveillance, nous avons constaté que des libations avaient été faites en son honneur. Et enfin, nous avons arrêté la coupable, c'est Antigone. » Arrive à ce moment-là, comme dans tous les procès, après le débat de procédure in limine litis, après le rapport de police, le débat sur le fond et sur les faits. Antigone ne nie pas les faits. Bien plus, elle les revendique. Et nous sommes ici, dans le cas, vous le rappeliez, Monsieur le Président, du procès de rupture. C'est un procès où l'accusation et l'accusé ne parlent pas le même langage, où les uns et les autres se réclament de valeurs différentes, où le dialogue n'est plus possible. À ce moment-là, la tendance de l'accusé, pour échapper à l'emprise du pouvoir, est s'adresser à l'opinion, ici le cœur. Regardez comment on traite une princesse de Thèbes. Mais le cœur est influencé, comme souvent au départ des procès, par l'accusation. La loi est forte, dit le cœur, et s'applique même aux morts. Antigone est condamnée à mourir emmurée vivante. Mais un grand procès ne s'arrête pas au baisser du rideau. Il laisse derrière lui un long sillage. Bientôt, on s'aperçoit que les dieux refusent les sacrifices que leur offre la ville. Le cœur, à la fin, se révolte. Le devin Tirésias annonce des malheurs pour la ville. Et puis surtout, Aimon, le fils de Créon, fiancé d'Antigone, se suicide après avoir maudit son père. Le désastre judiciaire est total. On peut penser à d'autres désastres, où une enfant remplacerait Antigone, un juge remplacerait Créon, car la force des grands procès est de ranimer les morts, de ranimer les passions éteintes, d'éclairer l'actualité à la lumière des mémoires. Si Antigone, donc, la tragédie se déroule comme un procès, le procès de Jeanne d'Arc, lui, se déroule comme une tragédie, et une tragédie en 5 actes. Acte premier, les juges ecclésiastiques vont essayer d'obtenir d'elle un reniement. Mais la résistance de Jeanne est beaucoup plus forte qu'ils ne croyaient, alors ils ordonnent le huis clos. Le huis clos, de nos jours aussi, les tribunaux ordonnent le huis clos, quand la publicité des débats leur fait craindre un trouble à l'ordre public. La pression continue, Jeanne d'Arc résiste. Dans l'acte 3, la pression se fera plus forte, on la menace de la torture et les tentatives de séduction se font plus précises. Si elle consent à renier, ne serait-ce qu'un peu, à dire qu'elle n'est pas sûre que les voix qu'elle a entendues étaient du ciel, elle sera libre. Alors c'est l'acte 4. Dans le cadre, dans la nuit, dans le cimetière de Saint-Ouen, sous la menace du bûcher, dans ce décor funèbre, elle cède, dans des conditions confuses. Mais quelques heures après, le lendemain, elle se reprend, elle est relapse, elle est tombée dans le piège, elle relève du bûcher. Et l'acte 5, c'est le bûcher. À 8h du matin, le 31 mai, elle sera revêtue de la tunique de toile écrue et soufrée, coiffée de la mitre sur laquelle on a écrit « relapse, apostate, idolâtre, hérétique », attachée à un poteau en face de la tribune où se trouvent les juges ecclésiastiques, et de l'autre tribune où se trouvent les juges civils. Pour une dernière fois, Cochon va essayer de lui arracher encore un reniement. Il ne va s'attirer d'elle qu'un reproche. « Évêque, c'est par vous que je meurs. » Transportée sur le bûcher, comme les flammes s'élèvent, elle dira « Toutes les voix que j'ai entendues étaient du ciel. Tout ce que j'ai fait était par commandement de Dieu. Mes voix ne m'ont pas déçu, et avant de mourir, elle criera Jésus. » Le bourreau, ne pouvant réduire son cœur en cendres, va le jeter à la Seine. Jean Tressard, conseiller du roi d'Angleterre, dira « Nous sommes tous perdus, nous venons de brûler une sainte. » Et Jean à l'épée, chanoine et juge de Jeanne, dira « Je voudrais que mon âme un jour fût là où je crois se trouve l'âme de cette femme. » Dans une préface à une édition abrégée des minutes du procès, Robert Brasillach écrit « Le récit le plus émouvant de la littérature française » n'a pas été écrit par un homme de lettres, mais résulte de la rencontre, abominable et douloureuse, d'une jeune fille de 19 ans visitée par les anges et de quelques prêtres, muets pour l'occasion en tortionnaire. La parenté formelle est évidente. Le procès la tragédie d'Antigone se déroule comme un procès, le procès de Jeanne d'Arc se déroule comme une tragédie. Mais Jeanne et Antigone sont inspirés par le ciel. Le commun des mortels, plus prosaïquement, est conseillé par des avocats. Le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, nous le savons, est inspiré par un fait divers qui fut jugé par la cour d'assises de l'Isère siégeant à Grenoble. Un jeune homme, d'origine modeste, intelligent, ambitieux, séduisant, était poursuivi pour avoir tenté de tuer la dame chez qui il avait été précepteur et dont il était devenu l'amant. Dans cette période, ces faits se situent dans les années 1821-1828, au temps du ministère Villèle, au temps d'une forte réaction nobiliaire en France, où les jeunes issus de milieux modestes ne pouvaient accéder au poste qui leur était dû, même si à l'occasion ils pouvaient séduire quelques femmes de l'aristocratie. Et du même coup, pour la défense, Stendhal reprend la trame du procès, mais il change simplement les lieux et le nom des personnages. Berthet devient Julien Sorel. L'histoire, le dossier, permet deux systèmes de défense, ou bien le crime passionnel. Et c'est ce que fera Maître Massonnet, l'avocat de Berthet. J'entends, dit-il, vous prouver que l'amour peut causer la mort. J'entends vous prouver que l'amour, parfois, est un délire. Stendhal, dont le roman est un long plaidoyer pour Julien Sorel, va plaider la révolte sociale. Dans sa dernière déclaration, Julien Sorel déclare aux jurés « Messieurs, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune, je ne vous demande aucune grâce. L'avocat de Berthet a dû penser que plaider la révolte sociale, à un moment où les nantis étaient d'autant plus susceptibles concernant leurs privilèges, que ceux-ci étaient menacés, il a préféré plaider l'amour, thème intemporel et tellement général qu'il est devenu inaudible. Berthet est oublié. Julien Sorel ne l'est pas, parce que les conflits de classe demeurent toujours dans nos sociétés. Ce qui est remarquable dans ce dossier, dans cette affaire, comparé à l'affaire Sorel et l'affaire Berthet, c'est que, en face du même dossier, car le dossier est le même, en face des déclarations de l'accusé, des déclarations des témoins, des documents, chacun des défenseurs va se comporter comme un monteur de cinéma devant des épreuves de tournage, devant des rushs. Il va prendre dans le dossier les pièces qui lui conviennent, les combiner et raconter une histoire. Et il se trouve que ces deux histoires sont conformes au dossier, mais qu'elles sont contraires entre elles. Laquelle est la vraie ? Personne ne peut le dire. Et parce que la respiration de l'accusé a mis sa buée sur la vitre qui nous sépare de lui, et c'est ce qui fait la fascination des procès, cette incertitude finalement. Combien de fois, voyant notre client partir entre deux gendarmes, ne nous sommes-nous pas dit « Est-il vraiment coupable ? Ai-je mal plaidé ?» Et parfois aussi, le voyant sortir libre et joyeux, est-il arrivé de nous dire « Est-il vraiment innocent ? Ai-je trop bien plaidé ?» Ceci donc, nous voyons donc cette parenté formelle, évidente, entre le procès, l'œuvre judiciaire et l'œuvre littéraire. Mais cette parenté est également une parenté de fond. Rappelons-nous le dernier roman qui nous a séduits, le dernier film qui nous a bouleversés. Il s'agit toujours d'une transgression, d'une infraction, c'est-à-dire, en langage juridique, d'un délit ou d'un crime. Bien sûr, je pourrais citer tous les drames de Shakespeare et tous les romans de Dostoïevski, mais même en quittant ces univers brûlants, nous retrouvons le crime ou le délit présent dans notre société et présent chez toutes les œuvres littéraires, chez Laclos et chez Stendhal, chez Truman Capote et chez Norman Mailer, chez André Gide et chez Thomas Mann, chez François Mauriac et chez Julien Green. Et c'est toujours l'accusé qui est au centre du procès, qui s'appelle Julien Sorel ou Gatsby ou Anna Karénine. Et quand un metteur en scène voudra filmer le procès, c'est à l'accusé qu'il donnera le visage de Jean Gabin, de Gérard Philippe ou de Greta Garbo. Car le criminel n'est pas différent de nous. Comme nous, il a deux yeux, deux mains, un sexe, mais aussi un cœur. L'humanité ne se divise pas en deux parties, une partie toute humaine et une partie toute inhumaine. Qu'est-ce que l'humain ? Qu'est-ce que l'inhumain ? Un animal n'est pas inhumain. Seul un homme peut être inhumain. La transgression n'est pas un signe d'animalité. C'est un signe d'hominisation. Depuis que nous avons quitté le vert paradis sans remords ni rêve, que nous avons goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance, qui est aussi celui du mal, nous vivons dans le péché. Ce monde sue le crime, disait Baudelaire, mais qu'il serait ennuyeux sans lui. Et ce n'est pas Xavier de Maistre, Barbé d'Aurevilly, Léon Blois ou Georges Bernanos, ces héros flamboyants du catholicisme le plus pur, qui me contrediraient. Les bêtes n'ont pas ce souci. Elles ne se posent aucune question. Dans la mer, les marsouins vont en troupe joyeuse. Dans la ruche, les ouvrières butinent et butinent encore et butinent jusqu'à leur mort. Et quand elles auront disparu, d'autres ouvrières viendront à leur place, butiner et butiner encore. Et les reines pondent et pondent encore, et quand elles meurent, d'autres reines viennent et pondent à leur place. C'est seulement dans la société humaine que les ouvrières un jour décident de faire la grève, parce qu'elles sont fatiguées de travailler 7 jours sur 7, et que les reines se font avorter. Mais du même coup, la société humaine n'est plus comme la ruche, répétitive. Elle évolue. L'histoire apparaît. Et les êtres humains ne sont plus comme les ouvrières dans la ruche interchangeable. Le destin individuel apparaît. Les hommes, les loups ne se mangent pas entre eux. Les hommes, si. De ces changements qui relativisent les tabous les plus absolus, qu'on nous oppose, chacun de nous a eu l'occasion de vivre dans sa vie quelques exemples. Quand j'étais avocat stagiaire, il y a longtemps et pas longtemps, il y a 50 ans, j'ai eu l'occasion d'être commis pour défendre des étudiantes qui se faisaient avorter. Procès d'une tristesse affreuse, où ces jeunes filles se culpabilisaient elles-mêmes, humiliées de s'asseoir sur le banc d'infamie à côté d'une faiseuse d'anges sordide, effrayées à l'idée que dans la salle, un cousin, un journaliste, puisse se trouver. Aujourd'hui, elles regardent songeuses leur enfant de 17 ans se rendre à la pharmacie avec l'ordonnance d'un médecin qui ne risque plus rien. Il m'est arrivé aussi à cette époque de défendre des militants du FLN pour des actes qu'ils considéraient comme des actes de guerre et les tribunaux comme des crimes, comme des assassinats. Aujourd'hui, quand mes anciens clients débarquent à Orly ou à Roissy, on déploie sur leurs pas le tapis rouge réservé aux grands de ce monde et aux amis. La parenté donc formelle et de fond est incontestable entre l'œuvre judiciaire et l'œuvre littéraire. Mais il existe une différence fondamentale. André Malraux disait « Les trois grands romans de la reconquête du monde, c'est ainsi qu'il s'exprime, sont l'œuvre. L'un d'un ancien esclave, Cervantes. L'autre d'un ancien bagnard, Dostoïevski. Le troisième enfin d'un ancien condamné au pilori, Daniel Defoe. » Malraux, qui a connu la prison lui-même, nous mène ici aux confins de la littérature et du judiciaire. Mais malgré cette parenté de forme et de fond, il existe entre l'œuvre judiciaire et l'œuvre littéraire une différence fondamentale. Le roman, le théâtre, sans l'encre, le procès a une odeur de sang et un goût de chair, et qui en a goûté ne peut plus s'en lasser. Serial plaideur pour une série d'acmés dont aucune ne ressemble à l'autre. Le prétoire est un lieu magique, un lieu de métamorphose, qui entre sorcière en ressort sainte, qui entre coupable peut en ressortir héros. Parce qu'un procès ne fonctionne pas comme un ordinateur. Il n'obéit pas aux lois de la physique. Mettant en cause des êtres humains, il est régi par des lois morales. L'énergie peut y accomplir des miracles. Un homme seul peut vaincre toutes les forces coalisées. C'est le trébuchet des cœurs. Si dans la vie, il nous arrive de nous fixer une image idéale de ce que nous voudrions être et de penser nous y conformer, vienne le procès, viennent les juges, nous n'aurons pas à enlever notre masque, il tombera de lui-même. Rien n'est plus pathétique que ce combat de l'homme seul, contre tous, mettant en jeu tout ce qu'il a de plus précieux, sa liberté, son honneur, sa fortune, le regard des autres sur lui, son propre regard. Rien, ni l'amour, ni la guerre, ne le somme avec autant de force d'avouer qui il est. Mon illustre confrère Alberneau avait écrit un livre qui pour nous eut beaucoup d'importance, intitulé « Les défendre tous ». Nous devons défendre tout le monde. Rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Mais pour défendre tout le monde, il faut encore comprendre tout le monde. Par empathie, nous mettre à la place de celui qu'on poursuit. Non pas s'identifier à lui. Non pas nous asseoir à côté de lui. Mais être devant lui. Mais le comprendre. Le paradoxe de l'avocat n'est pas tellement différent du paradoxe du comédien. Mais pour les comprendre, nous pouvons comprendre les sympathiques, Antigone coupable aux yeux de Créon, et pour des raisons qui ne sont pas subalternes, Jeanne coupable aux yeux de l'Église, et pour des raisons qui ne sont pas frivoles, Dreyfus coupable aux yeux de l'état-major, mais comprendre aussi les affreux, ceux qu'on appelle parfois des monstres. Désigner un accusé sous le nom de monstre est la solution de paresse. Nous l'excluons ainsi du genre humain. Nous le rangeons parmi les animaux énigmatiques, le minotaure, le sphinx. Et nous renonçons à chercher les voies par lesquelles notre semblable est arrivé à commettre ce qu'il a commis. Et nous renonçons par du même coup, nous renonçons à chercher les voies et moyens pour empêcher que d'autres suivent le même chemin. Je crois qu'à l'École nationale de la magistrature, on devrait mettre dans la bibliothèque des auteurs subversifs qui s'appellent Saint-Augustin, et Montaigne. Saint Augustin dit « Dieu, créateur de tous les êtres, sait par quel agencement de parties semblables et différentes tisser la beauté du monde. » Et Montaigne, d'une manière plus catégorique, « Au regard de Dieu, il n'y a pas de monstre. » Aucune profession ne nous permet de vivre autant d'humanités différentes jusqu'à être ivre de vivre, de nous approcher du pauvre lieutenant La Roncière, innocent et condamné, et de l'affreux docteur Petiot, nous approcher de la dame aux camélias si pathétique et de l'effrayante Brinvilliers. Comment comprendre un criminel si l'on n'a pas essayé un jour, en rêve, de goûter aux racines du crime ? Comment défendre l'ordre social si l'on ne s'est pas posté en face de lui pour l'interroger ? Comment débattre d'une nouvelle manière de vivre, d'aimer, de mourir ? Comment dialoguer avec l'avenir si l'on ne distend pas ses liens avec le passé et avec le présent ? Où est la vérité d'un homme qui a tué la femme qu'il aime ? Où est la vérité d'un comptable, d'un caissier qui, après 20 ans de bons et médiocres services, un soir s'en va avec la caisse et perd tout au casino ? Qui trouvera cette vérité ? Le juge ? Rarement. Parce qu'il porte les verres teintés de l'ordre public. L'avocat, oui, s'il sait regarder dans les gouffres et se contempler sans se perdre dans le miroir de l'accusé. Milan Kundera dit dans son essai sur le roman qu'au départ du roman, il ne faut pas placer un postulat moral. Ça, c'est bon pour le théâtre d'idées et le réalisme socialiste. Il faut simplement placer la curiosité d'explorer toute la part de nuit qu'il y a en nous. Et c'est également le rôle de l'avocat. Si l'avocat peut convaincre les juges qu'ils ont en face d'eux non pas un prédateur ni un nuisible, mais un maître humain qui nous ressemble, que cette part de nuit qui est en lui, qui est passée à l'acte, elle est aussi virtuellement en nous, le tribunal le condamnera à juste titre, mais comme un être humain, non pas comme un animal. Le juge Porfyre, dans Crime et Châtiment, aurait-il pu démasquer Raskolnikov si rapidement, s'il n'avait pas fait études avec lui ? Si sur les bancs de la faculté de droit, ils n'avaient pas tous les deux aussi rêvé aux conséquences de ce qu'ils appelaient la mort de Dieu. Contrairement à ce que pensait Thomas de Quincey, un crime n'est pas un chef-d'œuvre en soi. Un crime n'a pas de valeur par son poids de sang, mais par son poids d'esprit. Un crime, c'est un matériau à partir duquel l'accusé et son défenseur, et peut-être des écrivains plus tard, essaieront d'extraire la statue qui sommeille. Dans un procès ordinaire, il existe une volonté de vaincre, c'est celle de l'accusation. Dans un procès de rupture, celui d'Antigone, de Julien Sorel, pas de Berthet, de Jeanne d'Arc, il existe deux volontés de vaincre. Et ceci bouleverse toute la structure du procès. L'accusé, alors, avance comme le chevalier de Durer, entre la mort et le diable. Le diable, c'est le renoncement à soi, c'est le faux repentir. La mort, c'est le prix de la dignité conservée. À son procès, Socrate, dès le départ, refuse des circonstances atténuantes. « Je sais, dit-il, que parmi vous certains s'irriteront, parce qu'un jour ils sont passés en procès et qu'ils ont supplié les juges, qu'ils ont fait venir leurs enfants pour arracher la pitié, et même leurs amis nombreux, et même leurs familles. Moi, je ne ferai rien de cela. » Certains ne comprennent pas cette intransigeance. C'est pourtant à eux que s'adresse Socrate depuis 25 siècles. « Je sais. » Vous auriez aimé un Socrate qui gémit, qui se lamenta, qui prononça les mots et fit les gestes que vous attendiez de moi parce que vous les avez reçus de la part d'autres. Mais je ne regrette pas la défense que j'ai menée. Je préfère mourir que vivre votre piège. Socrate est mort de la mort qu'il avait choisie. Dans Athènes de cette époque, le pouvoir était hiérarchisé. Il n'y avait pas de presse. L'opinion n'était pas organisée. En Chine, en Inde, dans ce qu'on appellera plus tard l'Amérique, personne ne connaissait, ne savait qu'il existait une cité nommée Athènes. Mais aujourd'hui, qu'un homme se batte avec courage devant un tribunal, et il peut susciter la sympathie d'autres hommes, par-delà les mers, au-delà du monde. Georges Dimitrov, représentant de l'international communiste, condamné à mort dans son pays, la Bulgarie, voyageant avec de faux papiers soviétiques et traduit en 1934 devant un tribunal nazi à Leipzig. Goebbels et Göring publiquement l'ont accusé d'être l'instigateur de l'incendie du Reichstag. Dimitrov récuse l'avocat commis d'office parce qu'il estime qu'il va le trahir. Il se défend lui-même. « Je suis Dimitrov, dit-il, avocat de Dimitrov. » Il dénonce le nazisme, il exalte le communisme et il est acquitté. Parce que, en France, en Angleterre, en Suède, des hommes nombreux ont élevé la voix pour le défendre. En France, citons les noms d'André Gide et d'André Malraux. Le procès, alors, devient un combat. Non pas une bataille de voyous, mais un combat obéissant à des règles. Un tournoi, un jeu de stratégie, où l'essentiel n'est pas, comme aux échecs, de maîtriser l'espace, mais de maîtriser le temps. À la Libération, Robert Basillac est arrêté, jugé, condamné à mort et fusillé. 15 ans après, Abel Bonnard, ministre de Vichy, en fuite, se présente devant le tribunal. Il en ressort libre. Dimitri Karamazov disait « La beauté est une chose terrible. C'est le combat de Dieu et du diable. » Et ce combat se déroule dans le prétoire. Depuis que nous avons quitté le vert paradis, sans rêve ni remords, l'art judiciaire dresse toujours un pont entre le crime et la beauté. Et le dernier mot que prononce Socrate à son procès est le mot de beauté. S'adressant à ses juges, il leur dit, à propos d'une défense de connivence, une telle manière de m'en tirer n'aurait eu pas plus d'efficacité que de beauté. L'art judiciaire est un art autonome. La beauté d'un procès se juge d'après l'onde qu'il provoque à travers les siècles et à travers les continents. Parlant de Jeanne d'Arc, André Malraux disait « Oh Jeanne, sans sépulture !» Et il est vrai, Jeanne d'Arc n'a pas de sépulture. Ses cendres ont été dispersées. Son cœur a disparu dans la Seine. Ô Jeanne, morte sans sépulture, tu savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. Et l'exemple de Jeanne d'Arc est éclatant. Il y a une Jeanne gothique, une Jeanne renaissance, une Jeanne classique, une Jeanne des Lumières, une Jeanne romantique, une Jeanne moderne, devant qui s'inclinent à la fois Charles Maurras et Maurice Thorez. Pour Villon, elle est la bonne Lorraine. Pour Christine de Pisan, elle est la Pucelle. Par Dieu ordonné, Richelieu place son portrait entre ceux de Duc Esclin et de Bayard. Des conventionnels disent, si elle vivait encore, elle serait avec nous à l'assaut des Bastilles. Et Napoléon, l'illustre Jeanne, nous montre qu'il n'est rien d'impossible pour le génie français. Mais Jeanne n'est pas seulement un mythe français, elle est un mythe universel. Schiller chante en elle la sainte et la femme, tandis que Bernard Shaw voit en elle une guerrière, annonciatrice de Napoléon. Les héros de légende sont immortels, mais les héros des grands procès le sont aussi. Si la Phèdre de Ripide revit toujours chez Racine, Swinburne, Miguel de Unamuno, toujours la même et toujours différente, si Liseux de la légende celtique devient Isolde chez Wagner, Mandrin, roi vif à Valence en 1555, va revivre 2 siècles plus tard dans le film de Mario Soldati, le chevalier sans roi. Et les sœurs Papin condamnées par la cour d'assises de la Sarthe en 1933 pour le meurtre de Madame Lancelin, leur patronne, vont revenir 15 ans plus tard, revêtues de leurs plus beaux atours, dans la pièce de Jean Genet, Les Bonnes. Ce rôle de l'écrivain tente aussi les avocats. Isorni a consacré sa vie entière à tenter de dresser une statue pour son unique client, Philippe Pétain. Paul Baudet a consacré des ans et réussi à faire de Jacques Fesch son client, meurtrier d'un policier, fils de famille dévoyée, un saint. La chronique judiciaire ressemble à un musée Grévin où des corps embaumés attendent pour revivre un regard. Ce regard peut être celui du défenseur. S'il sait, à l'exemple de notre illustre ancêtre, Apulé, avocat à Carthage, être à la fois avocat et magicien. Merci.
Vous venez d'entendre la communication de maître Jacques Vergès, avocat à la Cour de Paris, communication intitulée « La passion de défendre » et lue devant l'Académie des sciences morales et politiques lors de la séance du lundi 6 février 2006.